Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Et si je vous racontais mon aventure en vélo de 3 jours, un peu ma toute première aventure de bikepacking. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Comment débuter le cyclisme à 46 ans? Comment passer de 0 km par an à 350 km dans un week-end? Telle est l'aventure que je vais vous raconter d'épisode en épisode dans ce podcast. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Bertrand Sullier. Quelques années, je ne faisais pas de sport du tout. J'ai fait un rééquilibrage alimentaire, repris le sport, débuté la course et j'ai perdu 27 kilos pour devenir marathonien. Maintenant, je cours tous les jours. Mais le vélo, je dois bien le dire, à l'origine, ce n'est pas vraiment mon sport. Mais ça va le devenir. Et je veux devenir champion du monde de mon monde en finançant mon premier gravelman. Et c'est ce que je vais vous raconter dans ce podcast. Bon, en fait, je me rends compte en plus d'ailleurs que je dois refaire mon intro parce que mon premier gravelman, je l'ai fait. Maintenant, je dois dire mon premier gravelman de 350 km. C'est un détail qui est important parce que la suite de cet épisode, ben justement, c'est pour préparer ce fameux gravelman, le Paris-Deauville, donc le 350. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important, parce que c'était un peu le but hein, de poser cette distance-là. Alors, je l'ai pas posé sur 2 jours, je l'ai posé sur 3 jours, voilà. Mais vous allez comprendre un petit peu le contexte. D'ailleurs, alors, je vais démarrer directement dans le contexte. Si vous écoutez Kilomètre 42, vous le savez, j'ai mon ami Hermano qui est en train de traverser la France en courant. C'est son défi Agrippa. Enfin, il fait en mode swimrun. Donc, on a fait un épisode de Kilomètre 42 il n'y a pas très longtemps. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Dans lequel, en fait, le truc, c'est qu'il est parti de Dunkerque, Bray-Dunes, la frontière là-haut dans le nord. Et il descend jusqu'à Menton, à la frontière franco-italienne, pour des associations, associations pour la planète, associations pour les enfants. Et il fait des étapes de, on va dire, 50, 60, un peu plus chaque jour, en fait, en courant. Et puis, quand il trouve une flaque d'eau, mais de l'eau pour nager en eau libre, il va nager en eau libre. Sinon, il va nager en piscine. Et donc, tout au long, en fait, il sensibilise à ses causes, il rencontre des élus, des journalistes, etc. Et donc, l'idée, quand on en discutait comme ça un petit peu de son parcours, c'est de regarder s'il passait près de la maison. Et en fait, il passe pas très près de la maison. Moi, je suis à Vichy. Et lui, il suit la voie Agrippa. Pour ça que son projet s'appelle le défi Agrippa. Et en fait, cette voie-là, on va dire qu'elle descendait sur Paris. Puis après, Paris, c'est un peu l'autoroute du soleil. Hein. Voilà, c'est grosso modo, imaginez, vous devez aller à Marseille, quoi. Partir de Paris à Marseille, vous passez pas par l'Auvergne, la route la plus courte. Surtout, la via Agrippa, en fait, c'était une voie qui a été faite par les Romains. Donc, à une époque, il n'y avait pas de moteur. Et donc, ils ont fait quand même au plus court. Et puis, ils ont essayé de passer par le plus plat, donc de longer là où il y avait l'eau, les fleuves, etc. Donc passer par chez moi, c'était pas vraiment possible. Mais dans son parcours, il y a un moment donné, il descend. Si je vais un petit peu vers l'est ou un petit peu vers le nord, un petit peu, je pouvais arriver à le croiser. Et donc j'ai commencé en fait, on en a discuté dans l'épisode. Je lui ai dit, écoute, je pense que si je me débrouille pas trop mal, je dois pouvoir arriver à te croiser dans telle zone. Et alors cette zone, c'était laquelle ? C'était en fait la zone autour de la Bourgogne. Alors après, il y avait un calcul à faire, c'est de savoir où aller le rejoindre exactement, vraiment comment faire, en se disant, il faut que j'arrive à le rejoindre dans un endroit qui est relativement sympa, un jour où il va courir, parce qu'il y a des jours de repos, chaque semaine il prend un jour de repos, et par exemple, ce lundi c'était son jour de repos, donc si j'allais le dimanche et que finalement je restais le lundi avec lui, bon c'était son jour de repos, donc je l'accompagnais pas sur son trajet, sur sa trace à lui, donc j'avais décidé de partir le lundi, et ça tombait pas trop mal, parce que ça permettait de le rejoindre en fait en Bourgogne, et en me disant, j'ai environ 170 km pour le rejoindre, entre 170 et 180 selon l'endroit où précis où il était. Et l'aller-retour, ça faisait grosso modo 350 km. Donc c'était plutôt, le calcul était là-dedans, de dire l'un dans l'autre, en faisant l'aller-retour, je l'ai fait en 3 jours, je faisais 350 km, ce qui correspond à la distance du gravelman que je veux faire. Et donc, finalement, c'était une préparation. Et sachant que, quand même, le Paris-Deauville, c'est début septembre, hein, c'est le 1er septembre. Donc là, aujourd'hui, je diffuse cet épisode, on est le 1er juin, donc je suis rentré hier. Donc ça veut dire qu'il reste juin, juillet, août pour préparer la distance. Vraiment, pour pouvoir la faire sur les deux jours, etc. Donc l'idée, vraiment, c'est de poser les bases, de regarder un petit peu ce que ça fait de rouler cette distance-là. Et d'ailleurs, j'étais un petit peu coquin dans l'histoire aussi, parce que j'avais volontairement ajouté 100 km de volume dans le week-end, 55 le samedi, 45 le dimanche, je veux dire, pour augmenter un peu le volume global, hein, pour avoir un volume global qui était plus important, pour faire un gros bloc vélo, en fait, un gros bloc vélo, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et donc, j'avais commencé à planifier un petit peu mon histoire, là, comme ça, et tout, en disant, bon, bah, voilà, si j'arrive à le rejoindre à un endroit où ça peut être sympa au niveau du... les paysages, etc., mais aussi le type de route. Et vraiment, ça, c'est un point qui était important, parce que j'aurais pu le rejoindre à un endroit qui était... En fait, j'aurais pu décaler, tout simplement. Bon, lui, il avait un peu décalé son départ, mais j'aurais pu aussi changer un petit peu mon parcours, et notamment dire que je pouvais, par exemple, ne rentrer que ce jeudi, par exemple, aussi. C'était une possibilité, hein, de passer deux jours, parce que j'aurais eu le temps, grosso modo, de le faire. Mais en fait, ce que je voulais éviter, c'est d'arriver jusqu'à Lyon, parce que là, lui, il arrivait à Lyon. Et Lyon, Clermont, l'Auvergne, etc. Enfin, la sortie de Lyon et tout. Voilà. Après, j'avais pas trop envie de descendre jusqu'à Lyon. Je voulais plutôt rester sur la partie au-dessus. Que d'ailleurs, moi, je ne connaissais pas beaucoup. Je suis allé à Lyon plusieurs fois, etc. Mais la partie Beaujolais, la partie cette partie de Bourgogne, etc. Moi, je la connaissais pas des masses. Donc, ça me permettait aussi un petit peu de faire la découverte comme ça et de voir un petit peu découvrir cet ensemble là. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de partir, et en disant le lundi matin je pars à la fraîche depuis Vichy. Alors ils annonçaient de la chaleur, hein, maintenant qu'il fait chaud. Donc moi je me suis dit je pars autour de 6h du matin pour le rejoindre à Tournus en Bourgogne, qui est au bord de la Saône, où il passait sa journée de repos. Donc l'idée, c'est de dire, bon, il est sa journée de repos là-bas, je le rejoins là-bas à la fin de sa journée de repos, le lendemain on s'en va tous les deux et je vais courir un bout de temps avec lui, et puis je ferai le reste en vélo et puis je rentrerai le mercredi. Donc c'est ce qui s'est passé. Lundi matin, je suis parti à la fraîche pour Tournus en Bourgogne. En arrivant, quand même, comme je cours tous les jours depuis maintenant bientôt 2 ans, j'ai quand même fait une petite séance running dans les rues là-bas autour de Tournus, autour de Patreon de l'hôtel. Après, on a mangé. En plus, il avait de la famille, une amie et tout. C'était une soirée sympa et tout. Et j'ai dormi là-bas. Alors, je dois le dire, hein, c'est que lui, sa femme a réussi à lui trouver dans plein de villes des hôtels qui l'accueillent et tout gratuitement, etc. Ou qui lui fournissent certaines prestations. Mais ils ont aussi loué un van, en fait, pour les suivre avec son entraîneur et tout. Pour les nuits, ils ne pouvaient pas. Donc, moi, j'ai fait les 2 nuits dans le van. En fait, voilà, j'ai dormi dans le van. Moi qui ai envie, alors j'ai un projet de van tour et tout, moi qui ai envie de faire du van, etc. Ça me permettait aussi de tester, de voir finalement comment je suis pas trop claustro si je dors sur le toit du van. Vous savez, c'est un California, The Gain California, et c'était un peu aussi de tester un petit peu cet ensemble-là, de voir un petit peu comment ça se passait. L'aller 170 km à peu près, enfin 168 pour la Tournus. Le lendemain matin, je suis parti avec lui, on a couru le long de la Saône. Alors moi, j'avais dit, il faut que je fasse 16 km parce que j'ai le challenge, vous savez, marathon pour tous, pour les Jeux Olympiques. Il y avait un challenge de 16 km qui me restait à faire sur le mois de mai. Au début, je me disais, il fallait courir 16 km et tout, je vais pas jamais le faire. J'aurais pas l'envie, pas faire ça autour de la maison, ça me tentait pas. Puis là, je dis, écoute, moi, je vais faire 16 km. Bon, finalement, après, par rapport où était son coach, en fait, il y a des points de passage où il le récupère, il le ravitaille, et en fait, il s'est trouvé que il l'a pas ravitaillé, on nous a ravitaillé au point 10 ou 11, et puis après, il nous a ravitaillé au point 23. Donc, le point 10-11 était trop court pour moi par rapport à mon challenge, et donc, le point 23... J'avouais que la fatigue de la veille était un petit peu loin. Sur les 2-3 derniers kilomètres, j'ai un peu tiré la langue. Mais je me suis fait une sortie de 23 kilomètres, hein, une sortie de course de 23 kilomètres quand même, le mardi. Et puis ensuite, j'ai fini le reste du parcours. Donc je l'ai suivi, ensuite on était jusqu'à Mâcon, donc j'ai pris le vélo jusqu'à Mâcon, je l'ai suivi. Et à Mâcon, on a fait une pause déjeuner. Et puis ensuite, on a repris le vélo l'après-midi jusqu'à Belleville en Beaujolais. Ça faisait 25 kilomètres l'après-midi. Alors, le matin, c'était sympa, c'était le long de la Saône, que ce soit en courant et tout. On est arrivé par la Saône jusque dans Mâcon. Par contre, après l'après-midi, bah, c'était plutôt de la route avec une espèce de nationale qui circule beaucoup, etc. Et c'était beaucoup moins sympa, mais par contre, ça me permettait aussi d'avoir les bidons d'eau, de pouvoir lui donner un bidon d'eau à un moment donné parce qu'il faisait très chaud et tout. Donc voilà, c'était cool aussi de partager ça avec lui. Et puis, quand on est arrivé là-bas, bah, lui, il fait du swimrun. Hein. Donc on est attendu à la piscine. Donc il y avait le club de natation qui l'attendait, etc. Il y avait même les élus qui sont venus, il y avait la presse et tout. Donc il y a eu interviews, photos. Moi, j'ai fait une petite séance. Hein. Je sentais une crampe qui venait, donc j'ai fait 650 mètres, lui il a fait son kilomètre 9 je crois, ou un truc comme ça. Puis à côté on avait un nageur, le président du club, qui était lui, qui a été champion du monde de natation en master ou je sais pas quoi, dans, je sais plus quelle distance et tout, et qui lui faisait des espèces de sorties, une séance dans laquelle il brassait énormément d'eau avec une puissance assez incroyable. Moi j'ai regardé ça un petit peu tranquillement, ça permettait un petit peu de détendre. J'ai jusqu'à un moment, quand j'ai senti une crampe venir sur la partie crawl, j'ai dit ouh là là, c'est pas aujourd'hui que je vais préparer mon objectif, parce que j'ai un objectif. Si vous écoutez Kilomètre 42, vous savez qu'il s'appelle la Yuta, qui est un mélange de natation et de course, un peu en mode swimrun mais un peu organisé différemment. Et ben c'est pas ce jour-là que c'est pas ce jour-là que je vais préparer la Yuta. Voilà. Donc ensuite le soir, ben, on a fait repas et nuit à l'hôtel. Enfin, en plus là, l'idée, c'était vraiment que lui traverse la France, quoi. Donc, il faut vraiment qu'il se repose, etc. Donc, moi, j'ai dormi aussi dans le van. Lui, tranquillement, son entraîneur aussi avait une chambre. Lui, il avait une chambre. Tranquillement, comme ça, on n'a pas fait de partage ou quoi que ce soit. Il me l'avait proposé. Je lui ai dit, non, mais moi, le van, c'est très bien. Comme ça, tu te reposes, tu dors et tout. Et puis, le mercredi matin, on a fait le petit déjeuner ensemble. Et puis, je suis parti. Alors, lui, il est parti vers le sud. Moi, je suis parti. Bah, je suis reparti, en fait, vers l'ouest. Et on est parti. Donc, je suis parti de Belleville en Beaujolais pour arriver à Bellerive sur Allier. Donc, à Vichy, je traverse le pont, en fait, par rapport à la maison. Et ce qu'il faisait, à peu près, en tracé, autour de 140 km. Voilà. Donc, 170 km à l'aller, 140 km au retour, plus, finalement, 35 km de vélo dans mon histoire, là, et ben, j'étais dans les 350. Hein, voilà, j'étais dans mes 350 km. Donc, l'un dans l'autre, mon calcul était bon. Voilà, l'un dans l'autre, mon calcul était bon. C'était un bon calcul. Je l'ai fait en 3 jours avec, bon, une pause au milieu, là, finalement, de repos. Enfin, je veux dire, il y a de la course, il y a 23 km de course quand même. Donc, c'est pas les mêmes conditions. Mais, enfin, voilà, quoi. Hein, c'est à peu près sur le volume. Je suis à 345 km de vélo sur ce début de semaine. Donc, je suis pas très loin. Sachant, je le répète, il me reste quand même 3 mois encore de préparation, hein, de pouvoir faire des longues séances, etc. Et puis, ça m'a permis de faire, finalement, 2 nouvelles séances à plus de 100 km. Hein, moi qui couru, enfin, qui ai roulé après mon grand fondo, qui me disait, je vais pas pouvoir faire de grand fondo avant le Gravelman, le Paris, le Gravelman, le Auvergne. J'en avais pas fait avant, que finalement, la première fois que j'ai passé 100 km, c'était pendant le Gravelman Auvergne. Et ben là, finalement, en 2 jours, j'ai fait 2 grands fondos. J'ai passé 2 fois la barrière des 100 km. Donc ça, c'est plutôt cool, en fait. C'est vraiment plutôt cool de pouvoir aussi voir comment je pouvais enchaîner ça. Donc voilà, je vous ai dit à peu près l'organisation, comment on a fait ça, le choix. Alors, ce choix du sommeil, d'ailleurs, de la gestion, du fait de dire, bah ouais, moi, je veux être autonome sur le sommeil, je veux pas les déranger, je veux pas le... Enfin, ça pose problème, je veux pas qu'on campe, je veux pas dormir... en plus, le lundi soir, il y avait sa femme et ses enfants qui avaient rejoint, etc. Donc, ils avaient une grande chambre. L'hôtel leur a mis à disposition de suite pour qu'ils puissent être tranquilles et tout. Donc, moi, c'était vraiment pas m'incruster. C'est vraiment être le plus discret possible. Donc, j'avais fait le choix, en fait, de dire que je pouvais même être autonome. D'être autonome, c'est-à-dire que je savais que je pouvais dormir dans le van. Je me suis dit, bon, dans le van, il peut y faire un peu frais la nuit. Hein. Il fait quand même 8-10 degrés et tout. Je me suis dit, dans le van, il ne fera peut-être pas très chaud. Et puis, je me suis dit, je pourrais être autonome. Et l'idée d'être autonome, c'est de dire, bah, si jamais je dois dormir sur la route ou quoi que ce soit, ou si je veux, ou si dans le van finalement, suivant là où il est garé, où il est installé, etc. Si par exemple il y avait de quoi faire un peu de camping, un peu de bivouac pour tester, etc. Je voudrais bien pouvoir le faire. Et donc l'idée, et puis de pouvoir tester aussi de ce que ça pourrait être fait d'être en autonomie, de voir le matériel qu'il pourrait y avoir pour être plus en autonomie. Et pour être en autonomie, la question que j'avais en fait, c'était de savoir pour le sommeil. Et donc j'avais prévu, donc j'ai dit, comme il va faire frais, je prends un duvet. Et puis j'avais aussi dans mon sac, j'avais un hamac, vous savez, les hamacs qui permettent de s'attacher à des arbres, et la couverture de survie. Alors la couverture de survie, je l'avais déjà pour le Gravelman, je vous en avais parlé. Le hamac, je n'en avais pas parlé, parce que pour le Gravelman Auvergne, sur le 120, même si la trace était plus longue, j'avais pas prévu de dormir, hein. Preuve, je suis arrivé à 21h30, donc j'ai pas prévu de dormir. Donc le hamac, c'est un nouvel équipement dans l'eau, là, celui-là, où j'en avais jamais parlé. Bref, donc j'avais de quoi dormir. Ça posait quand même un souci, cette histoire de duvet, c'est que là, j'avais fait un mot de récup, hein, en récupération dans ce que j'avais dans les stocks à la maison et tout, et autres. Et c'est un duvet qui prenait un peu de place. J'ai beau essayer de le compresser. Il prenait un peu de place au point qu'il pouvait pas rentrer dans la sacoche vélo. Enfin, de guidon, tout simplement. Et donc, il m'obligeait à prendre un sac à dos. Voilà. Et ça, c'est un vrai truc. Hein, ça m'obligeait à prendre un sac à dos. Donc, j'ai pas 36 sacs à dos. Hein, j'ai pris mon sac à dos que j'ai d'habitude. J'ai réussi à le fourrer dedans. J'ai pas grand-chose de plus de mettre là-dedans, hein, franchement, dans ce sac à dos. J'ai fini par y mettre quelques câbles. Et puis, au retour, j'ai fini par y mettre aussi... quelques affaires complémentaires, je vais vous expliquer pourquoi, mais finalement le sac à dos, c'était surtout un sac pour porter le duvet, il servait vraiment qu'à ça, donc c'était pas très lourd en tant que tel, même si un sac à dos, bon, ça pèse quelques centaines de grammes, et même si celui-là, il en pèse plus il a son poids quand même, mais c'est surtout du volume en fait, qui est pas très agréable, etc. Ça pousse pas forcément le dos, c'est pas si facile que ça. C'est plus le volume que le poids le problème, je trouve, dans cette histoire-là. Et puis, faut le dire aussi, c'est que normalement, j'ai une sacoche de sel, j'ai prévu d'avoir une sacoche de sel ou celle qui se met derrière là. De 17 litres. Alors 17 litres, je peux y rentrer plein de trucs. Ce duvet-là ne rentrera jamais dans cette sacoche de sel, ça c'est sûr. Est-ce qu'il pourrait rentrer un plus petit duvet? Est-ce qu'il pourrait mettre un petit duvet plus le hamac sur la sacoche de guidon et puis les affaires qu'il y a dans la sacoche de guidon, type manger, des trucs à manger en plus, etc. sous la sacoche de sel, ça s'en sera à voir. Sachant que j'ai aussi la sacoche de cadre dans laquelle je mets le ravitaillement un peu standard du moment, on va dire. Enfin, standard du moment que je peux manger rapidement. Ce que je mets dans la sacoche de guidon pour y accéder, c'est un peu moins facile. Donc j'ai mis par exemple dedans, pour donner le cadre, la sacoche de guidon, j'avais mis des recharges alimentaires pour le mercredi, en fait, tout simplement. Mais pas un truc que je puisse accéder tout de suite. Ce que j'ai mis dans la sacoche de cadre, j'avais des pâtes d'amandes, des petits bouts de nougat, mes petits sandwichs et tout. Là, c'est accessible directement. Voilà, c'est la différence, elle est comme ça. Vraiment faire comme ça. Donc j'avais pris le minimum à côté, hein. Franchement j'avais pris le minimum du minimum de ce que je pouvais prendre avec quand même, il y avait deux contraintes qui étaient importantes. La première, c'est qu'Hermano il fait son défi en mode course et natation, donc j'avais besoin de pouvoir nager. Et donc j'ai pris mes lunettes, un bonnet et une petite serviette. Alors une petite serviette c'est facile, hein. Chez Decathlon il y a toutes les serviettes qui se plaient toutes petites là, j'ai pris une trop grande taille. Franchement, bien roulé, ça prend pas de place. Des lunettes, ça prend pas de place. Un bonnet, un maillot de bain, ça prend pas de place. Après, j'avais pris, même si j'étais parti en cuissard, en t-shirt en maillot de vélo. J'avais aussi ma veste que j'avais achetée pour le Gravelman, là, qu'est-ce que j'ai apprécié d'ailleurs le matin, parce qu'il faisait froid quand je suis parti le matin, avec le petit air et tout, qui est couvant, qui protège de la pluie, etc. Donc j'avais ça, que j'ai pu rouler après en boule et la mettre dans le sac à dos. Truc que j'aurais pu mettre sous la selle, hein, c'est quand j'aurais une sacoche de selle. Donc là, j'ai mis dans le sac à dos cette veste-là. Je l'ai pas utilisée au retour, même si franchement, le matin, j'ai failli à un moment donné m'arrêter, la reprendre. Mais j'apprécie beaucoup cette veste. Et puis, quand j'ai fait une pause le soir et tout, le matin, pour aller prendre le petit déjeuner, j'ai bien apprécié de l'avoir. Donc cette veste-là, j'en suis vraiment très content, vraiment super content. Je vous ai mis la référence dans l'épisode sur le matériel. Comme ça, vous pourrez l'avoir, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc, le truc de piscine, ça prend pas lourd. Hein. Franchement, ça, tout roulé. T-shirt de rechange, ça prend pas lourd. Caleçon de rechange, ça prend pas lourd, etc. Short pour courir, ça prend pas beaucoup de place. Les chaussettes, j'avais pris les chaussettes les plus petites possibles. Voilà. Mais par contre, il y avait un truc, c'était les chaussures. Parce que Hermano, donc, il court. Son but, à lui, c'est d'avancer. Il a des étapes précises. Il faut qu'il arrive à une destination. Il y a l'hôtel qui l'attend. Là, il y avait un élu qui attendait à Mâcon. Il y avait donc les autres élus qui attendaient à Belleville-en-Beaujolais. Donc, bon, il a une moyenne à peu près, un calcul et tout, des temps qui ont été faits. Moi, je voulais courir avec lui, mais je voulais pas courir avec lui, le ralentir. Je voulais donc partir avec mes baskets de course. Enfin, voilà, je voulais avoir mes baskets de course parce que c'est vrai que dans l'année, je cours par moment en sandales, je cours par moment en pieds nus. Mais là, je me suis dit, courir en sandales, si lui il galope, le gars Joe, parce qu'il va vite, Hermano, il a fait 37 semaines de préparation, pour le suivre et tout, quand il commence à partir, en plus après une journée de repos, quand il partait à la vitesse à laquelle il partait quand même vitesse qui était sympathique, en tout cas un peu plus élevée que ce qu'il avait prévu, et donc j'avais dit, il faut vraiment quand même que je mette des baskets, mais où les mettre ? Ou même mes chaussures de running habituelles. Surtout que moi, je chausse du 47 quand même, mes chaussures de running. Hein. C'est pas des petits pieds. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux les mettre sur la sacoche de guidon et tout ? Ça va être pas pratique. Donc, j'ai pris une décision, en fait, de partir avec mes running au pied. Et donc, de démonter mes pédales auto, de remettre les pédales plates que j'avais eues lorsque j'avais eu le vélo. C'est-à-dire, c'est les pédales plates. Et puis, mettre une espèce de petite coque là au bout. Là, il y a une espèce de c'est pas une cale, mais on met le pied dedans, quoi. On cale dedans. Donc, j'avais remis ces pédales plates en me disant, on va bien voir ce que ça va faire sur le plan musculaire, sur le plan travail, sur la puissance, etc. Qu'est-ce que ça va me changer, etc. Bon. Je le dis tout de suite, hein, ça m'a pas changé grand chose. J'ai même apprécié par moment de les avoir parce que je me suis rendu compte que comme ça, ça me permettait de bouger la position du pied sur la pédale, le mettre plus ou moins sur le bout du pied, etc. Enfin, me mettre plus ou moins sur le bout des pieds et tout. J'ai pas trouvé ça problématique. Franchement, j'ai pas trouvé ça problématique. Ça m'a vraiment allégé sur mes contraintes logistiques, hein, d'avoir une paire de chaussures à ne pas emporter. C'était vraiment pratique. Pour l'anecdote, hein, c'est que si je mettais ces fameuses baskets dans mon sac à dos, elles prennent pratiquement toute la place. Donc et le choix aussi était là-dedans entre le sac à dos, qu'est-ce qu'il devait contenir, est-ce qu'il valait mieux qu'il ait un duvet ou est-ce qu'il valait mieux qu'il ait mes baskets de course et que je parte avec mes chaussures de vélo. Bon, il valait mieux que je parte avec mes chaussures de course au pied et que j'ai le duvet pour être en autonomie, je le répète, et aussi parce que la nuit il faisait un peu frais et j'ai bien supporté mon petit duvet. Parce qu'Hermano, au début, je lui ai dit, ouais, je prends le duvet. Il m'a dit, ouais, mais t'as pas besoin de prendre le duvet parce que il fait chaud, dans le van, t'auras pas froid, etc. Si, j'ai bien supporté. Alors, pas sur le début de la nuit, mais sur la fin de la nuit, en fait, vous savez, au petit matin et tout, là, quand ça se rafraîchit un peu, j'ai bien supporté de me rouler dans le duvet. Voilà, ça, c'est dit. C'est, fait partie, même si il a fait très chaud, mon GPS m'a annoncé ce mercredi qu'à un moment donné il avait fait 38 degrés de ressenti sur la route. Je l'ai bien senti franchement, mais en fait il y avait 26-27, ça tapait plein pot avec la réverbération et tout. On a senti déjà le mardi matin aussi, il faisait bien bien chaud et tout le long de la route et tout. Après un coup de chaud le mardi, je crois d'ailleurs, on était bien cuit à l'arrivée. Donc la nuit, il fait encore un peu frais. Et voilà, et pour l'autonomie, dormir juste avec la couverture de survie, si j'avais dormi dehors dans le hamac, c'était pas trop possible. Donc voilà, c'était le choix qui a été fait. Maintenant, venons-en à la trace. Moi, vous savez, j'en ai parlé souvent. J'ai des doutes sur Komoot, comment tracer des. J'aime pas trop ça en plus, passer trop de temps à tracer et tout. J'avais fait beaucoup de calculs pour mon histoire, pour faire Clermont-Vichy, enfin Cournon-Vichy et tout. Et finalement, j'avais moyennement suivi, enfin je l'avais suivi, mais il y a des endroits où j'avais un petit peu varié et tout. Là, j'ai pas trop de temps déjà pour faire une trace bien précise. J'avais pas pris trop mon temps. Enfin, j'ai pas pris le temps de le faire, et donc j'ai pas trop de temps de le faire. C'est pas vraiment mon kiff, donc c'est pas là-dessus que je vais y passer du temps. En fait, je préférais produire les podcasts, etc. Et voilà. Donc, je n'ai pas fait de trace précise. En fait, j'ai fait des simulations avec Komoot et Google Maps en me disant, bon, si je pars par là, ça me fera telle distance, etc. Alors d'ailleurs, c'est là où Google Maps m'a proposé plusieurs parcours. Quand j'ai regardé, il m'a proposé un parcours le plus court, marqué le plus court. Il m'a proposé le parcours le plus rapide et un parcours recommandé. Alors, il marque le plus court, il marque celui-ci, mais 1h26 de moins, celui-ci, il y a moins de trafic, etc. Et puis, il m'a mis un parcours recommandé. Ce qui m'est semblé très bizarre, c'est que le parcours recommandé était le plus long et c'est celui qui me faisait remonter le plus au nord avant de commencer de repartir un petit peu sur vers l'est, alors que les autres en fait partaient plutôt plein est en fait. Alors au début ça partait à peu près pareil, puis à un moment il y avait une bifurcation où il me faisait partir au nord sur un des parcours et j'avais dit mais quand même il est long ce parcours, pourquoi il me rajoute 20 bornes de plus ou quoi, etc. Alors après j'ai dit les 20 bornes 170 ça me permet de faire justement mon demi gravelman. Je me suis dit c'est pas si mal que ça de le suivre, mais pourquoi en fait, pourquoi? Donc j'ai décidé de ne pas le suivre ce truc là et finalement ce que j'ai fait en fait c'est que je suis parti. Au début j'avais un doute pour partir de Vichy par la route par laquelle il fallait prendre, j'ai mis le guidage GPS et il y a un embranchement où je suis parti sur le parcours le plus long. Bah oui, le parcours recommandé dans Google, en fait, j'ai suivi. Et hop, je suis parti sur le parcours le plus long. Et en fait, c'était une super bonne idée. C'était une super bonne idée. Et là-dessus, je remercie Google. Bon, c'est pas la seule idée, je vais en reparler après, parce qu'il y a eu d'autres bonnes idées. Mais là, c'était une super bonne idée, parce qu'en fait, il m'a fait récupérer le canal latéral de la Loire. Et en fait, ce canal latéral, bah, c'est un canal sur lequel il y a des bateaux qui passent, il y a des écluses. Donc, pour que tout soit au même niveau, il y a des ponts, un pont canal et tout. Alors, si vous connaissez peut-être le pont de Briard et tout, pont canal de Briard, là, il y en a d'autres. D'ailleurs, il y a une borne Briard qui était posée. Moi, je partais pas dans le sens pour aller récupérer Briard et tout, mais je partais dans l'autre sens. Et donc, qui dit canal dit plat, hein, voilà, plat, parce que finalement les bateaux, enfin vous savez, l'eau c'est plat quoi. Et donc les bateaux, quand ils doivent monter un peu, bah ils prennent l'ascenseur, l'écluse, qui est une sorte d'ascenseur. Et donc j'ai filé le long de ce canal sur la zone plate pendant au moins 30 km. Enfin, ça dure un bon bout de temps. Alors, si vous connaissez un peu le coin, c'est Digoin, Paray-le-Monial, dans ces zones-là, là, à peu près. Et puis c'est protégé, c'est de la voie verte, aucune voiture, très peu d'intersections, parce que à chaque fois qu'il y avait un pont, en fait, le petit chemin, il passe le long du canal et le pont passe par-dessus le canal, et donc la petite route, là, ils ont fait un petit passage qui passe le long du canal sous le pont. Il y a un moment donné, il y a un pont qui traverse, alors je ne sais plus quelle rivière, à un moment donné, ça traverse à cet endroit-là. Et bonne idée en fait, vraiment super bon, c'est qu'ils ont fait un pont canal quoi en fait. Et donc le chemin, ils nous font prendre le trottoir sur le pont canal. Donc là c'est plat là aussi, alors que ça, il y a pas de descente à faire pour aller traverser, je ne sais où, sur un petit pont qui aurait été plus loin, etc. Non, là on traversait par le pont canal. Donc finalement, c'était super cool. En plus, voir des péniches, j'ai regardé le fonctionnement de l'écluse, de voir comment justement le gars manipulait l'écluse. C'est tout manuel. Hein. Alors là, par contre, j'étais très surpris. Il a fait passer, j'ai vu passer une très grosse péniche à un moment donné. J'ai discuté un peu avec les gens et tout, qui voyageaient comme ça une partie de l'année. Et puis ensuite, j'ai doublé des vélos. J'ai vu beaucoup, alors beaucoup, hein, c'est relatif. J'ai vu quand même pas mal de vélos. Le lundi, c'était le lundi de Pentecôte, donc c'était quand même un jour qui est potentiellement fermé. Enfin, est-ce que c'était ouvert ou fermé? Il y avait plein de gens qui travaillaient, hein. Il y a des gens qui faisaient des travaux sur les routes et tout. J'ai vu des gens poser de la fibre et tout. Enfin, voilà, j'ai vu des travaux publics. Selon les villages, c'était plus ou moins ouvert. Il y a des villages qui étaient plus touristiques que d'autres où c'était ouvert, d'autres où c'était fermé. Enfin, voilà, c'était un peu variable. Mais grosso modo, en fait, j'ai quand même vu quelques vélos. Alors, j'ai rigolé parce qu'il y avait des touristes sur la journée, en fait, j'ai envie de dire qu'ils avaient des vélos. Ils avaient juste même pas de sacoche. Ils avaient un tout petit sac à dos avec quelques affaires, je pense, de quoi faire un pique-nique. Il y avait quelques personnes qui avaient un peu plus de chargement. J'ai doublé aussi des personnes qui étaient en VAE. Alors des retraités hein, qui étaient en VAE, qui étaient tranquillou en train de discuter avec leur VAE et tout, qui m'a pas entendu, que moi je doublais, boum et tout. Donc voilà, ils avaient un VAE mais vraiment pour rouler tranquille, pour pas forcer, etc. Donc c'était... D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit, mais vous n'avez pas de moteur, vous? Je dis, bah non. Et elle me dit, bah vos jambes, elles avancent hein, quand même et tout. Je dis oui. J'ai pas vu que vous étiez en vélo électrique de loin au début. Je pensais pas qu'ils étaient en vélo électrique, comme ils avançaient pas très vite. Moi, je les voyais... pédaler doucement et tout, j'ai l'impression qu'ils prennent leur temps, et en fait non, ils étaient en VAE, en vélo électrique, donc ils avançaient vraiment, vraiment, vraiment très cool, quoi, hein, vraiment très cool, parce que je lui ai dit, mais là vous avez le moteur, mais oui, on a le moteur, donc, c'était vraiment très cool, mais c'est cool de voir des gens pouvoir le faire justement, et c'est ça, je trouve, le truc du vélo électrique, moi là, j'ai choisi d'avoir un vélo avec la force de mes jambes, etc., c'est mon truc. Et j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de me défoncer, Oui, parce que là, je m'étais mis une petite contrainte quand même de, je voulais avoir une vitesse, je voulais pouvoir rouler quand ça roulait, je voulais pouvoir faire par moment des moments cool et puis par moment des moments avec plus d'accélération et tout. Donc, j'avais vraiment un petit peu cette ambition-là. Donc, ça, c'était cool. Et puis voilà. Mais je trouve que le vélo électrique, pour les personnes qui veulent voyager tranquille, qui veulent prendre, il y a des endroits, ça monte, ça descend, c'est pénible à un certain âge. En plus, si on a un vélo chargé avec beaucoup de chargement, beaucoup de poids et tout, il y a des trucs qu'on peut plus faire. Et je sais qu'il y a un moment donné, c'est plus agréable d'avoir un vélo électrique aussi quand on va au travail et si on a des grosses côtes, etc. si on n'a pas de quoi prendre une douche, qu'on est tout transpirant, bah, c'est vrai que le vélo électrique évite ce genre de choses. Donc moi, je trouve que le vélo électrique est un super bon truc. C'est juste que ça m'a fait rire, en fait, de les doubler, en fait. Voilà. C'était drôle de voir les doubler, de voir leur tête, en fait, quand je les doublais avec mon sac à dos et qu'ils me voyaient passer comme ça à toute vitesse. J'ai fait des pointes, hein, donc c'était drôle hein, de regarder à peu près la vitesse à laquelle je pouvais aller. J'ai fait mes petites pointes de vitesse par moment, etc., sur ce canal. Et puis, bon, c'est relativement droit, hein, parce que c'est un canal, ils font pas des virages et tout, c'est relativement droit. Je dirais plus loin, il y a un autre, j'ai pris une véloroute plus au retour, qui elle m'a un petit peu. C'est pas de leur faute, hein, parce qu'elle était droite, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé. Je vais vous expliquer ça après. J'ai aussi doublé un autre voyageur qui lui aussi avait un sac à dos et que, alors lui, il roulait avec un VTT, il avait un gros sac à dos, et il avait des pédales automatiques. Je sais pas pourquoi j'ai regardé ça. On a discuté, puis à un moment donné, on s'est retrouvé. Il y a un moment donné, bah, cette fameux canal là s'est arrêté. Le chemin, la vélo route le long du canal s'est arrêté, et on s'est retrouvé tout un groupe à se dire il faut aller à droite, il faut aller à gauche, etc. Alors lui est parti à gauche, moi je suis parti à droite. Mon chemin m'a amené à droite par rapport à là où je voulais aller. Lui, je sais pas où il allait. Et c'est là où en fait où j'ai vraiment vu la différence entre cette partie-là. Le matin, je suis parti sur des tout petites routes et même des petits chemins. Ensuite, j'ai eu ce canal et d'un coup, je me suis retrouvé sur des routes un poil plus larges et puis après, je suis retombé sur des toutes petites routes. Mais ce petit bout là où d'un coup, ça s'est mis à remonter alors que ça faisait 30 km qu'on roulait sur le plat, etc. était ce changement là de au départ, c'est vallonné, après ça devient tout plat, après ça devient vallonné. Le passage de l'un à l'autre, en fait, c'était un peu ce changement était un peu brutal, j'ai envie de dire, parce que là, en plus, ça redémarrait par une bonne côte. Mais par contre, c'est vrai que c'est un vrai gain de temps. C'est un vrai gain de fatigue parce que ça m'a évité en fait beaucoup de montées et de descentes, parce que quand je regardais sur le canal les autres montagnes qu'il y avait à côté, enfin le canal lui il est dans une zone plate et autour ça monte et ça descend, il y a des petites c'est vallonné en fait, voilà. Donc effectivement, si j'ai peut-être en passant par la zone qui coupait plus direct, j'aurais traversé les montagnes. Surtout qu'en plus, quand j'ai quitté donc ce fameux canal, et après je me suis retrouvé dans le Morvan, puis après Bourgogne, et donc là ça monte et ça descend. Alors c'est sûr que c'est pas des grandes montagnes avec des sommets et tout, mais il y a quelques pièges. Et dans une commune, je me rappelle pas la commune, je me suis arrêté. Il y a une commune en fait, je m'étais dit, je commençais à avoir soif quand même, et puis j'avais plus beaucoup d'eau. Et je me suis dit je vais trouver soit un terrain de foot. Où il y aurait un robinet, soit un cimetière. Je suis arrivé au terrain de foot, pas d'eau. J'ai dit, je vais chercher le cimetière. En cherchant le cimetière, je fais des virages et je tombais sur une petite placette où il y avait un joli petit bar avec une terrasse et tout. Et puis il y avait des gens qui étaient là. Je me suis dit, c'était ouvert. Tout le monde dit oui. Donc là, je me suis arrêté pour boire un petit coca, manger une petite glace, un petit glaçon à l'eau, là. Et la patronne m'a, ravitaillé en eau. Et puis elle m'a dit, il y avait un gars qui dit, bon, ils étaient deux, trois personnes à boire un petit demi, je sais pas quoi, en discutant, et puis ils m'ont vu en vélo, ils m'ont dit, ah, vous venez d'où, qu'est-ce que vous faites, et tout, bon courage, hein, pour faire ça, quand même. Et je dis, là, je vais à Tournu, c'est tout, et il me dit, ah, mais Tournu, ouais, il dit Tournu. Mais il dit, Tournu, c'est facile, de toute façon, vous avez deux cols, alors soit vous passez par le col des chèvres, soit vous passez par le col de Brancion. Il me dit, le col des chèvres, il est raide, le col de Brancion, il est moins raide, il y a des virages et tout, c'est un peu long. C'est beau, hein, c'est beau, moi j'aime bien le col des chèvres. Mon GPS me faisait passer plutôt par Brancion. Il m'a dit, de toute façon, une fois que vous êtes là-haut, après, c'est plus que de la descente. C'est raide, mais c'est que de la descente. Alors, je dis, c'est cool. J'arrive là-haut, je vois Brancion et tout, je vois sur mon truc, mon col et tout, je dis, ah, tiens, je suis en haut, je suis à Brancion, il me reste 13 km pour arriver à Tournu, que de la descente. Et non. Ah non, alors, je pense que ce monsieur ne faisait pas beaucoup de vélo, parce que il y avait des petites côtes derrière, des espèces de montes. En plus, alors il y en a une qui était un peu raide et tout. Je me suis dit, mais attends, le col de Brancion, il était où? Et en fait, c'est comme s'il y avait eu des petits enchaînements de mini-cols derrière, etc. Mais qui étaient assez raides, plus courts, mais assez raides, etc. C'est vrai que quand on a 160 bornes dans les pattes à ce moment-là et qu'on se dit, mais ça monte encore, il m'a dit que ça faisait que de la descente. Bon, voilà, j'ai trouvé la bonne blague. Je me suis dit, il m'a fait une blague, c'est pas possible. C'était le truc. Je me suis dit, s'il le fait qu'en voiture, lui, il se rend pas compte du dénivelé. Il se rend pas compte à quel point ça peut être ce petit coup de cul là qu'il y avait de quelques virages. Finalement, il devient très raide quand on le fait en vélo, alors que bien sûr en voiture, il passe nickel. Au retour, là encore, j'ai pas de trace prévue à l'avance. Encore moins parce que comme il pouvait y avoir des variations dans ce que faisait par rapport à leur parcours, par rapport aux hôtels qu'ils pouvaient trouver, etc., où il y a des doutes. Même moi, j'avais un doute à un moment donné de savoir par où je passais. J'avais plusieurs options et il y avait une question, en fait, c'était de dire, Belleville en Beaujolais, c'est le Beaujolais. Beaujolais, ça monte, ça descend. Par où passer? Par où passer? C'était quoi le meilleur chemin pour passer et tout? Et donc là, j'ai demandé Google Maps, Komoot, etc. J'ai même demandé à l'application de mon GPS Brighton là, quelle trace il pouvait me faire. Et il y a un truc qui m'avait surpris, en fait, c'est qu'il m'avait proposé une trace. Quand j'ai commencé à regarder les traces, en fait, depuis Mâcon, j'aurais une trace qui était assez cool pour revenir. Déjà, j'avais pas beaucoup de kilomètres, puisque j'avais 120 kilomètres. Je me dis, tiens, ça fait pas énorme, énorme. Et puis, dénivelé, c'était assez cool. Le temps était assez cool et tout. J'ai dit, tiens, ça me fait arriver pas très tard et tout. Je dis, c'est cool. Et puis, depuis Belleville, en fait, parce que Mâcon, c'était l'étape du midi. Mais quand je suis arrivé, quand le lendemain, on est reparti de Belleville, et le soir, dans le van, je regardais les traces que je pouvais prendre, je disais, mais c'est bizarre, ma trace, elle est montée à 100, elle est montée à 130, et puis 140, etc. Et je disais, là, il y a un truc qui est bizarre. D'ailleurs, on en plaisantait avec Hermano, je lui dis, ça se trouve, à la fin, je vais en trouver avec une trace de 200 km, je vais pas comprendre ce qui est pourquoi. Et pourquoi, en fait? Parce que, il y avait des simulations de traces qui me faisaient remonter. Il y en a une qui me faisait remonter presque à Mâcon, et puis repartir après sur le côté. Et puis, il y en avait une autre, en fait. Il y en avait deux autres qui proposaient de passer un peu plus directement, et de traverser directement. Et je me suis dit, tant qu'à être là, la partie Belleville-Mâcon, franchement, alors peut-être le long de la Saône était un peu plus sympa, mais la route, je me suis dit, si ça fait reprendre la route, ou ces espèces de routes-là sont pas très sympathiques, je les ai faites en plus, faire une sorte de boucle, hein, que ça me fasse un peu une boucle comme ça, et je vais repartir plutôt, visiter un peu le Beaujolais, découvrir un peu les petites montagnes du Beaujolais. Donc au départ, c'est parti par une belle voie, une voie verte en fait, vraiment jolie et tout, qui ils ont marqué avec des parcours et tout, qui était en faux plat en fait, hein. Quand même, un joli faux plat. Et puis d'un coup, ça s'est mis à devenir raide, et puis de plus en plus raide, et de plus en plus raide, et il y a un moment donné, j'ai regardé, en deux heures, j'avais fait 22 km et 600 mètres de D+. Alors, en fait, j'ai même fait une photo à 400 et quelques, ou 450 mètres de D+, et ça continue encore à monter, et ça a fait deux heures l'histoire. Et au bout de, je me suis dit, mais si c'est ça tout le long, je vais mettre combien de temps? Là où moi, j'ai calculé mon coup, puis il m'annonçait, il me disait, ouais, il faut 7h30 ou 8h pour rentrer et tout. J'ai, oui, mais j'ai fait que 22 km sur les 140. Ça va être long comme ça, cette allure-là et tout. Donc je me suis dit, ça va être long. Et puis derrière, il y a la descente, beaucoup de descentes, des grandes descentes. Pas très raide, mais assez régulière, donc ce qui permettait d'aller assez vite. Et puis j'ai récupéré ensuite la Véloire, qui est une route vélo, qui traverse une partie de la Loire autour de Roanne, etc. Belle voie verte, complètement protégée des voitures. Franchement, complètement protégée. Il y a un endroit où on doit traverser une grande route, ou deux. Enfin voilà, vraiment sans problème. Elle va jusqu'à Ygrande, si vous connaissez un peu le coin. Et après, il y a des ramifications pour la droite à gauche, il y a différents trucs. D'ailleurs, à un moment donné, le GPS me proposait deux passages. Et en fait, c'était deux passages de la voie verte, mais c'est après que ça changeait un petit peu la suite du chemin, entre le moment où ça montait plus, ça montait où c'était plus plat. Il y a un gros point noir quand même, alors là franchement c'est un gros point noir. Bien sûr, vous savez, sur ces voies là ils mettent des barrières pour empêcher les voitures de passer, pour éviter qu'il y ait des camions ou je sais pas quoi. Vous savez, c'est des espèces de barres en bois là qui s'ouvrent et qui se ferment là. Et donc à chaque fois qu'il y avait un croisement, il y avait ces espèces de passages là avec avant le croisement barre en bois, après le croisement barre en bois, puis faire un zigzag. En fait, ça faisait faire des zigzags. Alors au début, le zigzag. Alors déjà, j'ai une première remarque, c'est que ils ont mis des stops à tous les vélos. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le vélo, nous, on passait, il y avait une route, un tout petit chemin et tout. Il y avait toujours un stop. Il y a même une sortie d'une ferme. Il y avait un stop pour laisser passer le tracteur. Alors moi, j'ai les stops, je les ai pas respectés. Mais déjà là, je pense qu'il y a un truc à dire, c'est que quand on traverse ces tout petits chemins, ces petites routes, etc., faudrait pas oublier quand même que celui qui dépense le plus d'énergie pour mouvoir son véhicule, c'est pas trop la voiture qui peut s'arrêter, repartir sans aucune énergie, c'est plutôt le vélo quand même. Donc ça serait bien quand même que dans l'histoire, ça soit plutôt le vélo qui soit favorisé et qu'on dise, le vélo, bien sûr qu'on fait attention, etc. Mais c'est plutôt aux voitures de laisser passer un vélo, parce que la voiture, quand elle redémarre, ça lui prend pas d'énergie comparativement à un vélo, et surtout chargé et tout. Là, je sais pas combien j'avais de chargement en poids et tout, mais imaginons si vous partez en voyage, que vous avez, parce qu'une fois j'ai discuté avec des gens qui partaient, ils avaient, 10 ou 12 kilos sur les vélos, plus le poids du vélo, plus la bouffe et tout qu'ils pouvaient avoir. À chaque fois, faire ces zigzags avec le vélo, les sacoches, hop, on bouge. Si en plus faut s'arrêter, faut repédaler, faut repartir, etc. Bon, voilà. Donc, en plus, il y avait, Je crois que sur ces 30 bornes, tous les kilomètres, ou même moi, des fois tous les 500 mètres, il y avait ce fameux ralentissement, ce zigzag, ralentir, relancer, repartir, etc. À la fin d'ailleurs, j'ai trouvé ça tellement pénible qu'à un moment donné, je me suis arrêté, j'ai vu de l'ombre, je me suis arrêté, j'ai mangé. Je me suis dit, oh, je vais casser la monotonie de ce truc-là, j'ai même pris mon casque à conduction osseuse et tout, j'ai mis un podcast, parce que ça m'a gonflé un peu, en fait ça m'a gonflé. Non pas cette voie-là qui était cool, parce que vraiment protéger des voitures et tout, c'est de voir faire ces zigzags là qui étaient de plus, j'ai l'impression qu'ils étaient de plus en plus plus importants à faire, parce que en plus les barrières étaient vraiment décalées, c'est-à-dire qu'il y avait à un moment donné il fallait passer sur la gauche de la route et puis après c'est passé sur la droite, donc c'est même pas si en visant bien entre les barrières on passait en ligne droite, non c'est là il fallait tourner tac 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 et tout. Voilà, bon après on va dire que je me plains, etc. Parce que je me plains pas, parce que franchement, j'ai découvert, et ça c'est une vraie découverte, parce que moi j'en avais pas trop notion et tout, puis avant de faire du vélo j'en avais encore moins notion de ça, ces itinéraires cyclables, etc., qu'on voit pas des fois depuis les grandes routes, qu'on voit pas dans les villes et tout. J'avais vu qu'ils en faisaient quelques-uns, que vers là où j'habitais avant, il y avait quelques-uns qui étaient tracés, qu'ici à Vichy, là il y en a beaucoup plus qui sont tracés, on en a parlé dans l'épisode de la semaine avec le maire de Vichy, de kilomètre 42, on a parlé de ça et tout, et c'est vrai qu'il y a des jolis passages, etc. C'est vrai qu'on peut rouler, moi j'ai trouvé une boucle de 47 km où je croise quasiment pas une voiture dans le coin, mais et là donc j'ai pu faire des zones autour de, ouais j'ai pu rouler peut-être 30 km d'affilée sans croiser de voiture, à l'abri, sans même les chevaux sont interdits en fait dans ces zones là, enfin voilà, vraiment cool, etc. Donc je me plains pas, c'est une belle découverte. C'est vrai que sur la gestion de l'effort, de devoir, alors moi je m'arrêtais pas, hein. Franchement je l'ai dit, à plein d'endroits je me suis pas arrêté, mais de devoir ralentir, faire ce zigzag, repartir, relancer constamment et tout, c'était un peu pénible, et puis voilà, mais bon ça m'a permis d'avancer quand même pas mal. Et puis à la fin, quand je me suis rapproché de l'Auvergne, c'est redevenu un toboggan avec ses montées, ses descentes. J'étais un peu cuit avec la chaleur, et donc là, à la fin, j'avais un petit peu marre quand même de ses montées, ses descentes, etc. La route chaude qui réverbérait et tout, réverbération, oui, j'aurais à le dire. C'était un peu compliqué. Ensuite, un point, quand même, je vous ai parlé de la trace, donc vous avez compris que la trace, je ne l'ai pas faite à l'avance. Comment j'ai suivi ma trace que je n'ai pas faite à l'avance? Le guidage. Alors à l'aller, j'ai fait un choix et j'ai voulu faire un test. J'avais pris donc ma lampe que j'ai achetée là a une batterie qu'on peut utiliser pour, elle a un truc USB donc on peut s'en charger comme batterie de recharge du GPS ou du téléphone. J'avais une petite batterie complémentaire et j'ai pris une deuxième batterie complémentaire. Et donc ce que j'ai fait, à l'aller, j'ai dit bah tiens, je voulais arriver pas trop, je voulais prendre mon temps mais pas arriver trop tard en fait. C'est-à-dire je voulais pas arriver je voulais pouvoir participer au repas avec Hermano, pas le déranger dans sa préparation, je sais qu'il y a ses enfants, sa femme et tout. Enfin, il me l'a dit en cours de route. Donc au moment où il me l'a dit, en plus, j'ai dit, bah tiens, faut pas que j'arrive trop tard, faut pas que je les dérange, faut que... Enfin voilà, je voulais pas... C'est, le défi, c'est le sien, quoi. C'est, moi, c'était un micro-défi. Lui, il a un défi qui fait un mois de traverser de la France. Donc il faut son repos à lui, s'il se couchait tôt, je sais pas quoi, il fallait pas que j'arrive trop tard et tout. Donc j'avais quand même une volonté de dire, je prends la trace, faut pas que je me plante trop, faut pas que je fasse trop de recherches, etc. Donc j'ai pris un guidage intégral par Google Maps sur le téléphone. Au départ, déjà, c'était pour sortir de Vichy, parce que la route qui m'a fait prendre, je ne connaissais pas du tout cette sortie de Vichy, donc déjà pour sortir de Vichy, pour sortir bien. Et puis, ensuite, j'ai dit, bah, maintenant que je l'ai, je vais garder tout le long. Et je dois le dire, en fait, le guidage Google Maps, donc j'ai mis en mode vélo, je ne sais pas si sur mon téléphone, j'ai un mode réglage particulier, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il est très très précis, ce réglage. En fait, Apple Plan, la fonction vélo n'est pas activée, enfin ne marche pas, ils disent qu'ils peuvent pas le faire, donc il y a le bouton vélo mais ça marche pas. Sur Google Maps, le vélo est très bien fait, en plus ils montrent même le profil, la descente, etc. potentiel. C'est très précis, bon c'est très énergivore pour la batterie, hein. J'ai passé mes petites batteries, je suis arrivé, j'ai plus de batterie, alors que j'ai quand même, alors peut-être que ma batterie, j'en ai peut-être une qui est un peu de mauvaise qualité, hein. À la fin c'est pas du tout impossible. Mais en tout cas, sur le... Enfin, en fin de vie, quoi, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'ai passé les deux autres batteries, ça c'est sûr. Mais en fait, il a surtout été très malin. Mais vraiment très très malin, Google. Et c'est là où je dis, je sais pas si j'ai un réglage qui lui indique gravel ou pas gravel ou quoi que ce soit. Déjà, j'étais super étonné, c'est que au départ, il m'a fait passer sur des petites routes pour éviter les grandes. Ça, c'était assez cool. Je l'ai dit, il m'a fait rejoindre assez tôt le canal. C'était cool. Il m'a fait passer par des chemins, par des voies forestières aussi. Et c'est là où je me dis... Est-ce que sur mon téléphone et sur mon réglage Google Maps, j'ai marqué un jour que j'étais en gravel parce qu'il m'a fait passer sur des passages où si vous le suivez en vélo et que vous avez un vélo de route, vous passez pas. C'est simple, vous passez pas. Il y a même des endroits, j'ai dû porter le vélo. Carrément. Alors il y a quelques endroits, il y a des trucs, il y a des chemins qui étaient peu entretenus. Il y a des endroits, il y a des trucs avec vraiment des grosses bosses, des trous, etc. Et puis il y a un moment, je me suis retrouvé un peu dans la pampa là, avec des grandes herbes et tout. J'avais plein de vélos, des herbes de partout. C'était coincé dans le dérailleur. Et il y a même un endroit, donc il y avait un peu de la caillasse. Il y a un endroit, j'ai dû porter le vélo. J'ai dit bon, ça me fait une belle prépa gravelman. J'ai porté le vélo peut-être sur 200 mètres, enfin porté parce qu'il y avait des rochers et tout. J'étais obligé de passer par-dessus certaines petites pierres et tout. Et c'est là en fait où je dis tiens, je suis assez curieux quand même de cette histoire-là, de savoir si finalement comment ça s'explique en fait. Hein, vraiment cette histoire-là, comment elle s'explique. Qui me fasse passer par des endroits où si vous avez un autre route ou même un vélo de voyage un peu classique là, un tout chemin, ça ne passait pas. Mais en tout cas, il a été malin. Il y a des endroits, il faisait couper. Enfin, il y a des endroits, je voyais la route, il faisait un zigzag, là, il me faisait prendre une ligne droite. Bon, il se trouve que la ligne droite, c'était à travers. Il y a un moment, c'était à travers presque un champ. Enfin, entre deux champs, avec des herbes un peu hautes, etc. J'ai dit, ouais, et tout. Alors, la première fois, c'est surprenant. Puis après, on s'y fait plus. Et puis à la fin, j'ai même trouvé ça très appréciable. Parce que, au retour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais décidé que je ferais pas le traçage, le guidage intégral. Alors déjà, j'ai passé mon temps à finir de recharger les batteries mardi matin. Et donc, j'étais pas sûr d'avoir toutes les batteries chargées. Et puis, je voulais voir, en fait, un petit peu ce que ça faisait sur un repérage plus à la cool, en fait, en disant, je voulais faire une trace Komoot que j'ai envoyée sur mon GPS, en fait, au départ. Et ça, c'était mon premier point de départ. Au début, on s'est pas entendu. On n'a pas été d'accord ensemble. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il voulait que je parte sur un truc. Et moi, je lui ai dit, bah non, en fait, il y a une belle voie verte, la fameuse voie verte du Beaujolais. Je voudrais bien la conserver pour m'amener le plus loin possible, jusque justement au début des grandes montées. Et lui, il voulait me faire prendre la route plus tôt. Alors, probablement que la voie verte n'était pas marquée entièrement, ou qu'il y a un endroit, ou je sais pas quoi. Donc, je lui ai dit, non, là, je suis pas d'accord avec toi. Donc, le guidage de mon GPS ne m'a pas servi très rapidement parce que je l'ai pas écouté. Voilà, tout simplement, je l'ai pas écouté. Donc après, je l'ai pas reprogrammé, j'ai retourné sur un guidage Google, mais j'ai pas fait un guidage permanent. En fait, ce que j'ai repéré, c'est que j'ai repéré la trace, j'ai dit, bah tiens, je dois passer par telle commune, telle commune, telle commune, telle commune. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi les panneaux. Voilà, j'ai pris la route, j'ai suivi les panneaux. C'était des petites routes. Alors, il y a un endroit, il y a un camion qui est en me doublant, il a fait n'importe quoi. Mais bon, j'ai repéré. Franchement, c'était pas des grandes routes, donc j'ai pris des routes. C'était plus de route donc qu'à l'aller, parce que j'avais pas les petites coupures de chemin, etc. et tout. Moins énergivore pour les batteries, parce que finalement j'ai passé même pas un bout de batterie, j'ai rechargé un petit peu, mais franchement, très peu. Hein. Ma deuxième batterie, je l'ai même pas utilisée du tout, alors que sur le premier, j'ai utilisé toutes les batteries. Donc batterie de la lampe plus deux autres batteries. Là, j'ai utilisé la batterie de ma lampe au retour, et c'est tout. Donc j'ai même pas utilisé, même la deuxième petite batterie, j'ai pas utilisé. Donc ça veut dire que c'était quand même beaucoup moins énergivore. J'ai quand même réussi à rouler sur pas mal de petites routes, là où j'étais, voilà. Et à la fin, quand même, je suis tombé sur une grande route, avec les panneaux, etc. et tout. Et donc là, j'ai dit, par contre, je redemande à Google de me trouver des chemins plus sympas. Et jusqu'à Vichy, il m'a remis, en fait, à peu près sur, je dis à peu près, hein, sur à peu près sur les mêmes chemins que les chemins de départ que j'avais pris, c'est-à-dire avec un peu de caillasse, etc. Et puis un chemin, j'ai repéré, je dis, voilà, celui-là, tu m'as eu à l'aller, là, où il était vraiment limite de la praticabilité. Celui-là, je prendrais le petit chemin, la petite voie communale qui est à côté. Donc voilà, je l'ai un peu grugé aussi. Mais j'ai apprécié qu'il me retrouve des chemins plus sympas, des petits passages, des petites routes, des petites voies comme ça et tout, pour éviter la grande route, parce qu'il y avait une grande route avec beaucoup de camions, et ça me gavait. Donc voilà, sur le guidage, j'ai fait comme ça. Je trouve que c'est pas mal. Mais alors, c'est vrai que le fait d'avoir fait ça, en fait, m'a donné une trace qui était un peu plus route, peut-être un peu plus directe par endroit, sûr aussi. Avec une moyenne peut-être un peu plus élevée. D'ailleurs, au retour, j'ai une moyenne plus élevée. Maintenant, un petit mot sur l'alimentation. À l'aller, comme au retour, de toute façon, j'avais à peu près la même stratégie. Donc, dans ma sacoche de 4, j'avais mis, j'avais des barres, sticks de miel à Pyrone. J'avais pris des petits nougats chez Decathlon aussi, enveloppés en individuel. À la maison, j'avais acheté du pain complet. Je m'étais fait des petits sandwichs avec du beurre salé, du bacon, du fromage. Donc j'avais des petits sandwichs enveloppés dans des petits wraps et tout. Mes bidons identiques à ceux du Gravelman, c'est-à-dire un bidon avec la boisson d'effort à Pyrone et puis un bidon avec des électrolytes NutriPur. Et il faut le dire, en fait, hein, c'est que eux, je les ai fait remplir dans le bar du village, avant le dernier col. Et donc, au final, j'ai bu 4 litres, parce que c'est des bidons qui font 1 litre chacun. Donc, j'ai bu mes deux fois. Alors, ce que j'ai fait, en fait, c'est qu'il me restait un fond de la boisson d'effort sur le. La dame a dit, je vous le vide. J'ai dit, non, re-remplissez-le. Donc, finalement, j'avais en fait le fond qui restait de la boisson, j'ai remis de l'eau. Donc, j'ai bu un peu moins de 4 litres, on va dire. Et pour les électrolytes, j'ai fait à peu près pareil, mais il en restait très peu. En fait, j'avais des sachets de la préparation d'effort dans ma sacoche de cadre. Mais je voulais pas la ressortir sur le chemin. Et j'avais aussi des sachets d'électrolytes dans la sacoche de cadre. Je voulais pas vouloir sortir sur le chemin. Donc, j'ai fait re-remplir comme ça. Donc, j'ai bu 4 litres pour 8h26 de roulage, en fait. Avec les pauses et tout, j'ai fait peut-être plus d'une heure de pause, une heure et demie de pause, hein, je pense, hein, sur le trajet. Mais en 8h26 de roulage, j'ai bu 4 litres. J'avais entendu il n'y a pas longtemps qu'il fallait boire un bidon de 500 ml toutes les heures, à peu près. J'y suis, hein, sur ce truc-là, j'y suis. Bon, il faut y ajouter un petit café le matin dans un petit bar, un coca l'après-midi, mon petite glace et tout, voilà. Un petit croissant aux amandes aussi, sur le trajet. Sur l'alimentation, j'ai fait ça, et c'était cool, franchement, c'était cool. Je suis arrivé en pleine forme, d'ailleurs, j'ai couru en arrivant. Ça allait, sans avoir besoin de trop manger ou quoi que ce soit. Et le soir, j'ai pas dévoré, enfin voilà, j'ai mangé normalement, sans dévorer ni rien. Le retour, même stratégie, je m'étais fait un petit sandwich à l'hôtel d'Armano, on avait le buffet, et j'ai fait un petit sandwich jambon-beurre. Hop, enveloppé. J'ai pris aussi, alors par contre, j'ai pris une petite flasque d'eau en plus que j'ai pris pour courir, et là, je l'ai rempli aussi. Donc, j'avais les mêmes bidons qu'à l'aller. Hein, je vous ai dit, j'ai pris les petits sachets tout de recharge et tout, donc j'ai fait mes bidons le mercredi matin. J'ai repris de l'eau en plus, une petite flasque d'eau en plus. Et quand il faisait chaud, mais vraiment chaud en fait, et que j'ai pas pu recharger en fait sur le parcours. Il y a un village où le bar était fermé. J'ai pas vu de cimetière, j'ai pas vu de terrain de foot. Je les ai ratés, enfin je sais pas quoi. Et après, plus loin, j'ai fait une erreur en fait. À un moment donné, je suis arrivé dans un endroit où j'aurais probablement pu, mais en fait, mes bidons, enfin je les avais pas. Il m'en restait quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le dernier village vraiment, et là où j'ai bu un café en plus, j'avais pas roulé. Le matin, il faisait un peu frais. J'avais pas bu énormément. J'avais un peu soif, mais j'avais commencé à boire un peu, mais j'avais pas bu énormément que ça et tout. Et on va dire que grosso modo, mes bidons étaient remplis à plus de la moitié quand je suis arrivé là. Et je me suis dit, je vais pas les recharger. Sauf que après, c'était pas si facile, c'est mis à faire de plus en plus chaud et tout. Et en fait, je suis arrivé complètement à sec, mais vraiment à sec. Et en fait, j'ai bu finalement que 2 litres, un peu plus de 2 litres pour 6h33 de roulage. Alors là, si on fait le calcul, là, il m'en manque. Et d'ailleurs, en arrivant à Vichy, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller passer à la source des Célestins. J'ai rempli mes 2 bidons d'un litre. Et en fait, je me suis rendu compte, je les ai vidés dans la fin de l'après-midi, parce que je suis arrivé dans le milieu de l'après-midi. Dans la fin de l'après-midi, je les avais vidés. Et le soir, je suis allé, mes bouteilles que j'ai d'habitude à la maison, je suis allé les remplir avec à la source des CS1. Je suis retourné les vider. Et puis j'ai bu de l'eau et tout. En fait, j'ai passé une partie de ma soirée à boire parce que j'étais sec. J'étais totalement sec. Voilà, c'est le cas de le dire, j'étais à sec. Donc voilà, donc ça c'était vraiment le truc sur lequel je me suis raté. Vraiment, je le dis, je me suis vraiment raté. Je m'étais arrêté prendre un café. La dame était moyennement sympathique, en fait. Le café était sympa, mais la dame était elle avait autre chose à faire. On voyait qu'elle passait son temps au téléphone, elle discutait avec d'autres gens, elle parlait d'un voyage, elle parlait de blablacar, elle parlait de je sais pas quoi et tout. Et sur le coup, elle a pas trop discuté, puis voilà, je me suis... Et puis j'avais ces bidons qui étaient remplis, quand même fortement remplis, hein, encore. Je vais pas rajouter de l'eau maintenant, j'aurais dû, hein, ça aurait fait... L'un dans l'autre, hein, je pense que j'aurais gagné un litre d'eau, hein, sur ma journée. Ça aurait peut-être pas suffi, mais c'était pas mal. Bon. J'ai quand même profité de mon passage dans la région de Roanne pour manger une petite brioche aux pralines, Quelqu'un m'a dit sur Instagram que c'était incontournable, et c'est vrai. Alors après, pour l'anecdote, mon GPS, je lui ai dit de s'arrêter dans un truc, alors je sais pas si vous connaissez les boulangeries pralues. Bon, on en a une à Clermont, donc je connais les brioche aux pralines et tout. Et en fait, je lui ai demandé à mon GPS de m'amener jusque là-bas, parce que j'ai vu qu'il y en a une, je lui ai dit, bah, amène-moi là-bas. Et en fait, sur le passage pour y aller, il me passe devant une autre boulangerie, où je vois qu'il y a des petites brioches et il y a deux trucs. Je lui ai dit, ça, c'est plus intéressant. Et donc, j'ai pris une brioche et un chausson aux pommes, parce que j'adore le chausson aux pommes quand je fais du sport, et qui était super bon. Et je me suis pas arrêté chez Pralu, je me suis arrêté là. Et la brioche aux pralines était très, très bonne aussi, donc bon, ça allait. Voilà. Ça, vous avez tout. Vous savez à peu près comment tout ça s'est passé. Alimentation, boisson, traces, etc. Le point noir, parce qu'il y a quand même eu un point noir, c'est que je suis arrivé avec, j'ai dit j'étais sec, mais surtout la main gauche endolorie. Sur le retour, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'avais la main gauche qui était devenue très endolorie, et à tel point que je ne pouvais pas appuyer sur la gâchette pour passer le grand plateau. Et en fait, j'en avais besoin du grand plateau parce que comme ça descendait souvent, après la grosse montée de départ, il y avait beaucoup de descentes, et puis que je voulais avancer quand même à un bon rythme et tout, et ben je pouvais pas passer mon grand plateau. Au départ, je pensais que ça venait de ma sacoche qui avait bougé, qui était un peu mal calée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je me suis arrêté. J'ai mis certaines affaires que j'avais dans la sacoche de guidon dans mon sac à dos pour que la sacoche prenne moins de place, etc. Elle gênait un petit peu, mais voilà. Et puis après, c'est mis à pas gêner du tout. Mais au fil des kilomètres, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas actionner la gâchette. En fait, j'étais obligé d'appuyer. Soit j'appuyais avec la tranche de la main, donc je me contorsionnais, et avec la tranche de la main, j'appuyais. Soit j'étais obligé de fermer un peu le poing pour appuyer dessus. Parce qu'avec le doigt, je n'avais pas la force pour appuyer, pour passer le plateau. Tout simplement, avec le pouce et tout, je pouvais pas appuyer. J'y arrivais pas. Et ça s'est confirmé en fait en arrivant. Quand j'ai regardé, alors à tel point d'ailleurs que la fin de ma stratégie, c'est de dire je reste en grand plateau, même sur certaines montées en fait, sur l'avant, et je préférais forcer un poil plus plutôt que d'avoir à faire ces manipulations, parce que je savais que ça montait, ça descendait et tout. Je me suis dit, ah mais dans 2 secondes tu vas devoir repasser le plateau, rechanger et tout, et je pouvais placer le platis en fait, mais remonter sur le grand c'était problématique. Et en fait, ça s'est confirmé en arrivant. J'avais la paume de la main qui est un peu gonflée hier mercredi, elle l'est encore ce matin, ce jeudi, hein, là, le jeudi matin, elle l'est encore. Quand j'appuie, ça fait un peu mal. Doigts endoloris, moins de force dans les doigts. En fait, c'est simple, quand j'ai voulu ouvrir la porte de chez moi en arrivant, j'arrivais pas à serrer la clé pour tourner. En fait, c'est-à-dire que je pouvais mettre la clé, mais au moment de tourner la clé dans la serrure, j'arrivais pas à tourner, j'avais pas la force pour tourner. Donc j'ai ouvert avec l'autre main, et puis pour voir mes bouteilles aussi, parce que normalement, ma main gauche, c'est la main avec laquelle je lance. Moi, j'écris de la main droite, mais je lance tout de la main gauche. J'ai la puissance de la main gauche. Ça fait très bizarre. J'arrivais pas, en fait, tout simplement à actionner tout ce que j'avais actionné. Vraiment, vraiment, vraiment très bizarre. Là, sur ce truc-là, je sais pas, en fait. Alors, ce jeudi matin, c'est un peu mieux. C'est pas encore tout à fait ça. Mais d'où ça vient? Alors, j'ai eu quelques discussions sur Instagram de personnes qui l'ont eu. Alors, il y en a qui m'ont parlé du canal carpien, qui ont eu ça plusieurs fois, même des personnes qui ont été opérées. D'autres personnes m'ont dit position de la main, est-ce que c'est l'appui sur comment je positionnais ma main, les gants peut-être, c'est vrai que sur mes gants j'ai peut-être une couture, je trouve qu'il y a un moment ça a appuyé, est-ce que c'est ça qui a appuyé, je sais pas trop. Pourtant il y a un renforcement confortable, et je trouve que ce renforcement confortable est peut-être pas si confortable que ça. L'accumulation des kilomètres, hein, entre les 3 jours d'aventure plus les 2 jours avant où j'avais roulé et tout. J'ai pas regardé mon temps de selle global, en fait, sur les 5 jours. Peut-être, est-ce que c'est ça? J'en sais rien. Douleur aux fesses aussi. Quelqu'un m'a dit, moi, au bout de quelques heures, quand j'ai des douleurs aux fesses, je change de position, je finis par être un peu tiraillé dans tous les sens, etc. Peut-être. C'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc quand même, c'est que autant à l'aller, j'ai pas eu mal aux fesses, ou très peu, autant en retour. J'ai eu mal aux fesses beaucoup plus rapidement. Alors, est-ce que c'était la veille? Alors, faut dire un truc, c'est que le lundi, en fait, j'étais parti qu'avec un cuissard et un t-shirt de vélo. Et comme je savais que je pouvais prendre ma douche à l'hôtel, en fait, à l'hôtel, je les ai lavés à l'hôtel et je les ai fait sécher. Et le mardi, on courait. J'ai couru en tenue de course classique et j'ai roulé aussi avec mon short de course et tout. J'ai pas pris le cuissard, donc. Est-ce que c'est ça qui a un peu fait mal aux fesses et un peu plus tôt? Est-ce que c'est l'accumulation des heures, etc.? Toujours est-il que, est-ce que c'est le sac à dos aussi qui tirait? Enfin, voilà. Toujours mes histoires de position de selle que j'ai rebougé. Enfin, voilà. Est-ce que c'est ça? Toujours est-il que j'ai eu mal aux fesses plus tôt, pour le retour. Est-ce que c'est ça qui fait que j'ai pris une mauvaise position ou quoi que ce soit? À surveiller. Ça, c'est à surveiller. L'autre petit point noir, c'est un tout petit point noir, c'est les coups de soleil. Et il faisait très chaud, ça tapait fort, j'ai pris des belles traces de bronzage à l'aller, donc on en a rigolé avec Hermano, j'en ai rigolé sur Instagram, parce que j'ai pris une trace de bronzage, en course à pied, moi les traces de bronzage je les connais parce que j'ai des shorts de longueur variable, mais là avec le cuissard comme il bouge pas, j'avais une marque mais qui était tellement nette, bam. En retour en fait j'avais remonté un peu le cuissard un peu différemment, et la trace elle s'est... J'ai 2 traces maintenant. J'ai une trace très marquée, j'ai une trace un peu moins marquée, on va dire. J'ai des degrés en fait de bronzage qui sont différents. Et puis j'ai pris quand même des coups de soleil. Alors à l'aller, j'avais plutôt le sentiment qu'en fait j'avais commencé à prendre des coups de soleil qui étaient sur le dessus des jambes. Au retour, je les ai pris sur les avant-bras. Et vraiment là, je les sens encore ce matin, donc j'ai pris des bons coups de soleil sur les avant-bras et sur le pif. Voilà, donc maintenant j'étais tout rouge. Prochaine fois, je mets de la crème. C'est vraiment un truc qu'il faut que je prévoie. Et là, j'étais parti sans crème. Ça, c'est une erreur. La prochaine fois, je mets de la crème. Ce que j'ai appris maintenant pour conclure un petit peu et le bilan et un petit peu de toute cette aventure, c'est que d'une part, c'était une super expérience. Déjà, c'était une super expérience parce que ça m'a permis de retrouver Hermano dans son défi et tout, dans son projet. C'était super cool de pouvoir le retrouver. J'ai fait 568 km à l'aller sans problème. J'ai fait 141 km au retour sans problème. J'ai couru sans problème et tout. C'était une chouette aventure, quoi. Je veux dire, humainement, de retrouver Hermano, c'était cool. Et sportivement, c'était cool. Vraiment, ça, c'était trois belles journées. Alors, il y a une journée avec Hermano. Enfin, il y a eu le soir, le mercredi matin et tout. Moi, ça me faisait plaisir de le recroiser. C'était chouette de le voir. C'est aussi chouette aussi parce que c'est un projet. Bah, il a mis du temps, hein, ça fait longtemps qu'il y pensait. Pour le rappel, en fait, Hermano, on avait fait un swimrun ensemble, qui était en septembre 2020. D'ailleurs, j'étais parti avec mon bonnet pour nager à la piscine. Je nageais avec mon bonnet du swimrun. Et lui aussi, c'était drôle, on avait tous les deux le bonnet du swimrun. On s'était pas concerté, hein, pourtant, mais on avait le bonnet du swimrun. Et en fait, lui, il avait tellement adoré le swimrun qu'il avait dit « je vais faire un défi swimrun ». Et c'est comme ça qu'était né son défi swimrun Agrippa, traverser la France comme ça. Et c'est vrai qu'en fait sur cette histoire là ça faisait plaisir de le retrouver et tout, de passer du temps avec lui, de partager une partie de son défi, de le voir aussi dans son élément, parce qu'il était vraiment à fond, concentré dedans, ses micro-siestes, les préparatifs et tout, les respirations et tout, et puis qu'il puisse croiser des journalistes pour leur parler de ça, qu'il croise les élus, de voir comment il était animé par ce projet sportif, par le côté humanitaire, enfin tout ce qu'il y avait autour de ça, c'était vraiment très très cool de voir tout ça et tout, et j'ai vraiment pris un gros plaisir de le faire. Sportivement, donc je l'ai dit, 568 km à l'aller, 1597 m de D+, 8h26, roulage, 19,9 km en moyenne. Je vais en parler après parce que c'est un élément important. Je vous donne les chiffres du retour. 141,94 km. Ouais, je sais pas pourquoi je passe en 42. 1274 de D+. Donc finalement, par rapport au ratio, hein, y a moins de kilomètres, mais il y a moins de D+, mais on est dans les mêmes ratios. 6h33 de roulage, 21,6 km/h de moyenne. Et oui, j'ai roulé plus vite au retour, qui peut s'expliquer. Alors à l'aller, en fait, je me suis rendu compte que je faisais en moyenne du 20 km/h. Première heure, 20 km/h. Deuxième heure, 20 km/h. Troisième heure, 20 km/h. En fait, j'ai tenu sur les 5-6 premières heures à 20 km/h. Voilà, avec seulement une pause pour regarder une écluse, manger et tout. Mais en fait, j'ai tenu à cette vitesse-là. Quand je roulais, j'étais à 20 km/h de moyenne sur l'heure. En fait, voilà, entre les montées et les descentes, j'ai tenu à ça. D'ailleurs, sur Instagram, j'ai eu quelques messages. Je l'ai partagé. On m'a dit, ah, c'est bien, ça fait de la régularité, de retenir la régularité, etc. J'ai fait à l'aller une longue pause déjeuner à l'aller, plus de pauses au global, etc. Un bar le matin, un bar l'après-midi, une longue pause à midi pour manger, mais aussi parce que j'avais un appel à passer, un appel téléphonique, un coaching à passer. Donc on a fait ça en pleine nature, c'était cool et tout. Et ça m'a permis de faire une bonne pause. Au retour, en fait, le truc était, je l'ai fait plus direct, en fait, tout simplement. Déjà parce que au départ, donc le moyenne très basse avec au départ sur la montée. Vraiment, quand je suis 9 km/h, 8, tout, ça ne monte pas. Et ensuite, donc, j'ai voulu accélérer pour refaire ce que j'estimais comme étant un retard. C'est une moyenne de 20. Il y a un moment donné, j'étais dans un calcul en me disant, si là tu roules à 40 km/h, tu arriveras au bout de 3 heures, tu auras fait 60 en 3 heures, donc tu seras à 20. Il se trouve avec la descente, etc., que j'en étais pas loin. Ça ne s'est pas joué à grand chose, ça s'est joué à... Alors en fait, j'ai mis 3h10, quelque chose comme ça. Donc ça s'est pas joué à grand chose. Mais c'est là, après, j'ai fait une bonne pause. J'ai un peu ralenti aussi. Parce que je me suis dit, mais ouais, mais à rouler à cette allure-là tout le temps, tu vas complètement te cuire, quoi. Tu vas t'exploser. Et en fait, j'ai eu besoin de faire deux pauses. Donc une dans un bar, Et puis j'avais acheté aussi ma petite brioche au praline, etc. Et puis une sur la route, la vélo à l'ombre, plus courte qu'à l'aller. Hein. Je suis même resté debout à côté du vélo et tout. Mais c'est le moment où j'en avais marre là, des zigzags, des repartir, redémarrer, repartir. J'ai cassé un peu cette monotonie comme ça. Et puis il y avait de l'ombre, une belle ombre et tout. Je me suis dit là, je me mets à l'ombre un petit peu. Je repartirai tranquillement. Ma moyenne supérieure, elle s'explique, je pense, par ça, hein, par cette volonté à un moment donné, je suis en retard, donc il faut que j'accélère un peu. Et puis, par le fait que j'ai fait plus de routes et moins de chemin, parce que mon guidage au retour, je l'avais dit, c'était de prendre plus tôt les routes plutôt que de suivre aveuglément ce que me disait Google Maps. Et donc, l'un dans l'autre, il y a des moments, j'ai vu, à un moment, il m'avait fait tourner, j'ai regardé le truc, j'ai dit, waouh, là, tu me fais prendre le chemin. Et puis je voyais à peu près le chemin par où il passait, je dis non, là je vais prendre la route, même si il y a quelques voitures, quelques camions et tout, je préfère prendre la route, tant pis. Et je pense que j'ai eu un tracé qui était plus direct par endroit, où l'un dans l'autre en fait, hein, y a des routes, surtout sur des routes en descente, où je pouvais y rouler plus vite que sur certains chemins où il y aurait eu de la terre et tout. Et je pense que c'est la moyenne s'explique aussi beaucoup par ça. Et puis il faut le dire, hein, le changement de pédale ne m'a pas posé de problème. On m'a dit, ouais, tu verras, quand t'es habitué aux pédales automatiques, quand tu repasses sur des pédales plates, tu sens vraiment qu'il y a une grosse, grosse différence. Alors, je dis pas que j'ai pas senti la différence. Je dis que c'est pas été un problème. C'est sûr que si j'avais pas couru avec Hermano, j'aurais peut-être, si j'avais dit, voilà, j'irais courir tranquillement et tout, je serais parti avec des chaussures vélo et j'aurais pris mes sandales de course dans la sacoche. Voilà. Ça, par exemple, sur cet été, si j'envisage quelque chose, je vous en parlerai après, je le ferai comme ça. Mais là, je fallait vraiment que j'ai des baskets de course et 23 bornes et tout. J'ai bien apprécié d'avoir mes baskets de course. Voilà. Maintenant, il y a un autre truc que je dois dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié un élément que je n'avais jamais cerné jusqu'à maintenant. C'est la notion de voyage. C'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, bah, je faisais d'un point à un point A, toujours. Et là, c'est la première fois que je faisais. Enfin, je l'avais fait pour faire lors de mon déménagement pour venir à Vichy, 50-60 km. Mais là, le fait de faire un point A, un point B, de sortir, de passer dans plusieurs régions et tout, d'avoir cette notion de voyage, j'ai vraiment apprécié cette notion de voyage. Je veux dire, tiens, le vélo me permet de voyager. Et à un moment, je me suis fait réflexion, je roulais depuis, je sais pas, quelques heures, je me suis dit, tiens, si j'étais parti à pied, ben, en courant, j'aurais pu aller là maximum. Et puis, en plusieurs jours, en marchant, je serais allé là. Et là où je suis, là, il m'aurait fallu 4 jours pour venir, alors que je l'ai fait en 4 heures, quoi. On va dire à peu près grosso modo. Donc la notion de voyage était vraiment plus grande. Je me suis dit, mais en fait, avec le vélo, il est possible de traverser la France, il est possible d'aller voyager. Je me suis dit, si je partais dans l'autre sens, qu'est-ce qui se passerait? Si j'en faisais 300 km, non pas pour aller vers l'est, mais si je partais vers l'ouest, genre vers la mer, ou au sud, ou vers la mer, etc. Et en fait, ça m'a donné des idées, cette histoire-là. Mais surtout, la réflexion que je me suis faite, c'est que c'était intéressant, en fait, d'arriver à une destination. Voilà, il y a une destination, on prévoit, on dit voilà, je dois rejoindre quelqu'un à tel endroit, je dois aller à tel endroit, j'ai tel point de passage, etc. Et de se dire que l'important, finalement, c'est d'arriver à la destination. C'est pas de se dire, oui, bon, de toute façon, si je me sens fatigué, je fais demi-tour par rapport à la boucle. C'est ce que je fais des fois les matins, les jours que je vais rouler. Il y a un moment donné, un jour, je me sens un peu plus fatigué, je dis, bon, bah là, ma boucle, je peux la raccourcir là, ou alors je suis plus en forme, je vais l'allonger à tel endroit, ou tiens, ce passage-là, aujourd'hui, je me sens pas de le faire, bah, je vais pas le faire. Là, sur la notion de voyage, je peux un petit peu dire, non, je vais faire plutôt à droite, plutôt à gauche, ou peut-être éviter la route plutôt que des espèces de chemins sur lesquels je vais me faire prendre Google, mais je dois avancer, quoi. Je dois avancer. Et j'ai beaucoup apprécié ce truc-là, en fait. Se dire, eh ben, quand on voyage et on avance, on va de point A en point B, tac, 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 il y a ce truc-là, il faut avancer, il faut, peut-être qu'on peut varier l'allure, peut-être qu'on peut faire des étapes. Moi, là, j'ai pas le choix de faire des étapes autres, même si je m'étais laissé la possibilité de le faire, hein, vraiment, s'il y a eu un problème. À la limite, je pouvais dormir sur la route et puis dire à Mano, écoute, je te rejoins le matin et puis on s'arrangera le matin et tout, comme ça. Je pouvais le gérer ou j'avais le moyen de dire, je peux rester un jour de plus, sur les parcours. Donc, j'avais ce truc-là et de dire, ben, c'est un voyage, je gère ma destination, je vais jusqu'à ma destination. Et à même un moment, je me suis dit, bon, ben, maintenant, là où t'es, de toute façon, tu dois seulement avancer parce que tu vas pas revenir en arrière. t'es attendu, donc tu avances. Voilà, c'est un peu dur, mais tu avances. Ouais, tu feras une pause à un endroit, ça monte, c'est raide et tout. Tu avances, tu gères, tac, comme ça, tu avances, etc. Et c'est une gestion bien différente des sorties sur une journée, et j'ai beaucoup apprécié. C'est vrai que des fois, quand je fais des boucles et tout, je me dis, voilà, aujourd'hui, je vais faire 100 km, ça me fait une boucle, il faudrait que j'aille à tel endroit, qu'est-ce que je peux aller voir, qu'est-ce qui va me motiver. Alors, ça peut être voir un château, faire une vue, je l'avais dit souvent, c'est aller boire un café à un endroit, boire un café ou je sais pas où. Oui, voilà, ça peut être des trucs comme ça, qui donnent l'envie d'aller quelque part. Mais là, la notion de voyage, j'ai trouvé qu'était vraiment, vraiment très sympa. Et c'est la conclusion, en fait, de tout ça, de cette aventure, c'est que c'était un premier test pour moi qui me donne envie de faire un peu de voyage à vélo. C'est vrai que ce podcast, en fait, ce dont je vous ai parlé, c'est la préparation Gravelman. Mon idée, moi, de vélo, c'était de faire le Gravelman. Mais en fait, ça me donne envie de faire un peu de voyage à vélo. Je sais que certains d'entre vous, on a discuté, vous voulez faire du bikepacking aussi, parce que, voilà, moi, j'ai commencé par cette histoire de Gravelman, mais il y en a d'autres qui commencent par du vélo taf et tout, et qui se disent, c'est cool le vélo, on peut faire un peu plus de distance, on peut faire ça, commencer à faire le week-end, et qui se disent, ah bah tiens, si je faisais des petits bouts de voyage, des petits bouts de week-end, partir en vacances à tel endroit, aller à tel endroit, rejoindre la famille peut partir en vacances là, moi je vais aller à la journée en vélo. Voilà, il y a des trucs dont on va reparler d'ailleurs. Et petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que niveau d'équipement, en fait, j'ai presque tout pour être autonome. Mais je dis presque tout. Parce que, en fait, j'ai le hamac pour dormir. Si je trouve des arbres, je peux le faire. S'il y a des arbres dans un camping, je peux le faire. Il y a la solution, quand j'ai commencé à poser la question de dire, bah, tiens, si j'allais à tel endroit, comment je pourrais faire? On m'a dit, pour un premier bikepacking, tu peux t'arrêter en hôtel ou Airbnb. Certains sur des aventures où ils ont plusieurs où ils roulent pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Font ça en fait, ou disent bah non, nous on s'arrête dans un Airbnb, on s'arrête dans des gîtes comme ça pour avoir un vrai repos, pour avoir des douches et tout, voilà, tout ce truc là, ça me donne l'idée en fait d'aller d'un point à un autre. J'aime l'idée, ça me donne l'idée. Là je l'ai fait avec un mode un peu plus, j'avais un peu cette notion de vitesse, de dire tiens, je voudrais rouler un peu. Je m'étais mis un peu dans l'esprit de rouler, pour voir un peu à quelle vitesse je pouvais rouler, combien de temps je pouvais le faire. Donc j'ai pas fait trop de tourisme parce que je voulais pas arriver trop tard le lundi non plus, parce que le mercredi il faisait chaud, je voulais pas passer des heures et des heures en pleine chaleur non plus comme ça et tout. Mais en fait, en roulant, je me suis imaginé en me disant bah tiens, cet été, pourquoi t'irais pas voir la mer, quitte à faire l'aller par exemple en vélo, rentrer en train, si j'ai pas le temps global pour le faire, me dire tiens, pourquoi j'irais pas aller dans les Landes par exemple, j'avais adoré les Landes. Dire bah tiens, t'irais voir, bon là c'est l'océan, pourquoi t'irais pas voir l'océan dans les Landes et tout. Puis même imagine une boucle en fait, en disant bah tiens, après tu peux faire ça, tu peux aller à tel endroit, longer le canal à tel endroit, remonter ou revenir pourquoi pas avec le en vélo dans le train et tout, et puis faire un espèce de petit voyage comme ça sur quelques jours, avec une grande autonomie potentielle, je dis. En fait, ce qui manque, c'est d'avoir un duvet un peu plus... pour l'été, en plus, il faudra un duvet qui soit... On peut avoir un plus petit duvet, quoi, je veux dire. Mais surtout plus compact. Un truc plus compact, plus petit. Et puis, eh ben, une fois que j'aurai une sacoche de sel et tout, de voir le remplissage, de voir ce que je peux mettre dans le remplissage. J'ai vu que ben, le fait de pouvoir avoir mes sticks, d'avoir des trucs comme ça de miel... Ça prend pas beaucoup de place, recharger au fur et à mesure dans certains magasins, je peux m'arrêter, l'histoire des boulangeries, même à Mâcon, moi j'ai dit à Armano, écoute, il avait acheté de l'alimentation lyophilisée lui pour ses ravitaillements sur la course et tout. J'ai dit toi tu gardes tes réserves, moi je vais m'acheter une pizza. C'est gérable quoi, l'effort et tout était gérable. Ça me donne des idées. Voilà, ça me donne des idées. Je me suis dit, je ferais bien faire un petit voyage comme ça, aller voir un truc sur 2 jours, même si, ou 2-3 jours. J'aimerais bien. Il y a des trucs qui me tentaient, et les voyages van me tentaient, mais je découvre que finalement, un petit voyage vélo pourrait me tenter. Ça peut être cool, en fait, ça peut être cool. Donc, il y a 2-3 trucs à gérer, hein. C'est mes histoires de traces, mes histoires de coups de soleil. Bien sûr, choisir une destination, faire des étapes, et puis voilà, se donner un peu le temps pour le faire, se dire tiens c'est faisable et tout. Mais je trouve que la conclusion en fait de ces 3 jours, c'est que d'une part c'était une chouette aventure, je le redis, d'aller rejoindre Armano, de voir un peu, de partager son défi, de l'aider aussi dans son défi à ma manière, avec le peu que je fais sur l'ensemble de ce qu'il a fait. Finalement je cours 23 km finalement sur avec lui, j'ai fait 60 km sur toute la traversée de la France, donc c'est une paille, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir accompagné dans cette bout de truc, parce que si tout au long, il a des gens comme ça qui l'aident, qui le rejoignent, qui l'accompagnent, ben pour lui, ça passe plus vite. Et puis, il partage cette aventure avec d'autres gens et je trouve que c'était cool de le faire. Et puis voilà, ça me donne des idées aussi pour dire, bah, finalement, je pourrais faire d'autres choses. Et puis j'ai presque tout pour le faire, en fait. Et ça, c'est vraiment génial de pouvoir l'imaginer, de pouvoir dire... j'ai quasiment tout pour faire ce genre de choses. Il me reste à me dire que je peux le faire et que de m'organiser pour prendre quelques jours pour le faire. Et je pense que cet été, c'est quelque chose que je ferai. Donc n'hésitez pas, si vous avez des conseils, si vous avez des idées, si vous pensez qu'il y a des trucs sympas à faire, si vous avez des étapes à me proposer, si vous me dites, bah tiens, pour aller à tel endroit, tu peux suivre telle route, tu peux aller à tel endroit, suivre telle route, etc. D'ailleurs, c'est pas dit forcément que je parte de Vichy en vélo. Pourquoi pas partir en train jusqu'à un endroit et puis ensuite prendre une véloroute et puis voilà, je sais pas quoi. Tout. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Et on se retrouvera bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je sais pas si j'aurai un invité ou si je continuerai un petit peu mes bilans, mes épisodes solo, etc. Donc n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, des interrogations, des sujets que vous voulez aborder et tout, à m'envoyer un petit message @BertrandSoulier sur Instagram. Vous pouvez mettre des commentaires sur Spotify, vous pouvez mettre un commentaire sur Apple Podcast. C'est le podcast à découvert, ça fait longtemps que je peux être commentaire sur Apple Podcast. Je veux pas vous mettre la pression, mais en fait ça aide le podcast aussi à remonter un peu dans les classements, à le rendre un peu plus visible, à ce qu'on soit plus nombreux aussi dans cette aventure et qu'on aide finalement plus de gens aussi à se mettre au vélo, à faire du vélo, à se lancer aussi dans ces aventures-là et à se dire que aussi ils s'en sont capables et découvrir aussi ce côté grisant et joyeux qu'on a autour du vélo. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et on se retrouve très très vite. Ciao ciao.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.